Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Avant l'attente commençait le mercredi et on se demandait à quelle sauce sanitaire nous serions mangés le jeudi soir après la conférence de presse. Et bien cette fois ça bouge et dès ce soir Emmanuel Macron consulte tous azimuts le conseil scientifique, des médecins réanimateurs dans quelques minutes. L'un d'entre eux d'ailleurs, le professeur Guidé, sera avec nous dès qu'il en aura fini avec le chef de l'État et il nous dira quelle est, vue de l'Élysée, la tendance en matière de reconfinement. Autre rendez-vous à 18h15 dans un quart d'heure, Jean Lassalle qui semble avoir de nouveau des ambitions présidentielles. Et puis dans un tout autre registre, Philippe Cavrivière qui viendra nous faire rire avec son œil incomparable sur l'actualité. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres dans l'actualité de ce 16 mars.
Et à la une d'abord cette info RTL, les TGV sanitaires prévus cette semaine sont annulés faute de patients. Voilà qui risque de compliquer encore un peu plus la situation des services de réanimation. Pour la première fois, Jean Castex évoque ce soir une troisième vague. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, deux raisons d'espérer. Et oui, il en faut. On va bientôt pouvoir s'auto-tester. Et puis le protocole de réouverture des restaurants, lui, est prêt. Pas de date, mais on sait au moins comment ça va se passer.
C'est ça. C'est de la science-fiction, mais au moins on sait. On connaît le scénario. La météo, Peggy Broche, demain, c'est pas de la science-fiction, c'est du gris. Gris et de l'humidité, notamment à l'est.
Exactement, Thomas. Avec des averses de pluie ou de neige à basse altitude sur le relief et parfois en plaine sur le nord-est, la Méditerranée va conserver du beau temps avec du vent. Et en allant vers l'ouest, là, on va retrouver plus d'éclaircies, un temps sec et même un beau soleil entre la Vendée et la Bretagne, à l'exception des Pyrénées, où le temps restera perturbé. Tout ça sous des températures qui ne bougeront pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, avec des maximales comprises entre 7 et 18 degrés.
Merci, Peggy.
RTL Soir.
Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants.
C'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, Jean Castex évoque clairement, vous l'avez entendu, une troisième vague. Alors faut-il y voir le signe d'un prochain reconfinement? Ce qui est sûr, Marie-Bénédicte Allaire, c'est qu'Emmanuel Macron consulte à tout va.
Mais oui, et l'Élysée le fait savoir. Cet après-midi, Emmanuel Macron vient de recevoir une délégation du Conseil scientifique et en ce moment même, c'est avec des médecins réanimateurs en visioconférence qu'il s'entretient. Tout ça en préambule à la réunion du Conseil de défense de demain. Les nouvelles décisions dont parlait hier le président semblent donc imminentes. Jean Castex a confirmé devant les députés qu'il s'agissait bien désormais d'une stratégie territorialisée, c'est-à-dire en fonction de la situation de chaque région. On sait que trois d'entre elles au moins seront concernées, Île-de-France, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces trois régions au moins, le statu quo n'est plus envisagé. Toute la question est de savoir quel type de confinement sera décidé. Dans un avis rendu la semaine dernière, le Conseil scientifique préconise une réponse régionale adaptée et ciblée qui serait mieux acceptée par la population. Emmanuel Macron n'a pas toujours suivi ces avis, mais avec la dégradation de la situation et les déconvenues sur la vaccination, le président l'a reconnu hier, le maître du temps, c'est le virus.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, et ce reconfinement semble d'autant plus inéluctable que l'opération transfert de patients patine. Les deux TGV sanitaires prévus cette semaine sont, et c'est une info RTL, reportés faute de patients, Sophie Orange.
C'est ça, au départ, deux TGV devaient quitter l'Île-de-France ce jeudi et dimanche, au total 80 malades. Les trains étaient prêts depuis lundi soir, ils ont été transformés, les groupes électrogènes sont dans les rames, il ne restait plus qu'à apporter les bouteilles d'oxygène, sauf que ces TGV vont rester à quai, impossible de les remplir. Seuls 10 à 12% des malades en réanimation peuvent être transférés, leur état doit être stable, ils ne doivent pas peser plus de 100 ou 110 kilos, ne pas avoir été mis sur le ventre dans les dernières heures avant le voyage, et puis surtout les familles doivent donner leur accord, et bien souvent ça coince, sans compter que les hôpitaux dans les régions sont eux aussi saturés. Seuls des transferts ponctuels perlés sont donc organisés. 4 hier, par exemple, vers les Pays de la Loire et l'Occitanie, voyage par hélicoptère ou avion. Ces évacuations sanitaires étaient présentées la semaine dernière par le ministre de la Santé comme la dernière chance pour éviter le confinement, faire baisser la tension dans les services de réanimation d'Île-de-France qui n'en finissent pas de se remplir, plus 20% en une semaine. Olivier Véran prévoyait des dizaines, voire des centaines de transferts. Impossible, ce ne sera pas le cas. Restent les déprogrammations qui font perdre des chances aux malades qui ne sont pas opérés. Ce n'est pas tenable à long terme. Le confinement se rapproche donc à grands pas.
Sophie Orange, du côté de la vaccination maintenant. Statu quo, ce soir, les injections d'AstraZeneca pourraient toutefois reprendre d'ici la fin de cette semaine, Amandine.
L'Agence européenne du médicament rendra son avis jeudi, mais sa directrice a d'ores et déjà fait savoir tout à l'heure qu'elle était convaincue des bénéfices de ce vaccin.
Rien ne prouve que le vaccin est responsable de ces effets secondaires. Le nombre de thromboses chez les personnes vaccinées ne semble pas plus important qu'en population générale. Les investigations sont toujours en cours, mais nous restons convaincus que les bénéfices apportés par ce vaccin dépassent de loin les risques d'effets secondaires.
Ymer Cook, la directrice de l'Agence européenne du médicament, des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. De son côté, la Haute Autorité de Santé ici en France donne son feu vert aux autotests, un prélèvement nasal que chacun d'entre nous va pouvoir faire chez lui dans les tout prochains jours. Le résultat apparaît en 20 à 30 minutes, comme sur un test de grossesse. Tout test positif devra ensuite faire l'objet d'une confirmation par test PCR. C'est tout de même un outil de plus.
Et alors qu'on envisage un énième reconfinement, en tout cas en Île-de-France, au moins régional, on parle aussi ce soir réouverture.
Bonsoir Armelle Lévy.
Bonsoir.
Et ça y est, le protocole est prêt pour les restaurants et les hôtels. Il a été acté aujourd'hui à Bercy. On ne sait pas quand ça se fera, mais c'est sûr, ça se fera en trois étapes.
Oui, trois étapes de quatre semaines chacune. La première concerne les hôtels. Les clients de l'hôtel pourront prendre leur petit déjeuner dans la salle de restaurant et pourront de nouveau se baigner dans la piscine extérieure. On passe à la deuxième phase. Les restaurants pourront ouvrir leur terrasse complètement, sans jauge, mais à l'intérieur, la jauge sera de 50%. Tout comme les hôtels, mais ils ne pourront servir que les clients de l'hôtel. Dans cette phase 2, l'accueil sera un peu plus restreint pour les bars et les cafés. La jauge sera limitée à 50% à l'intérieur comme à l'extérieur en terrasse. Et enfin, quatre semaines plus tard, il y aura la troisième phase, tant attendue par les hôteliers et restaurateurs, à l'image de Didier Chenet du Groupement National des Indépendants.
La troisième phase, j'ai envie de dire, ce sera la libération. Sous réserve, bien entendu, de l'application du protocole sanitaire et des 1 mètre de distanciation, il n'y aura plus de jauge. Tous les établissements seront rouverts, intérieurs, extérieurs, les terrasses. Et ça vaut pour les restaurants, pour les bars et pour les hôtels. Ça nous emmène à mi-juin, début juillet. Voilà, donc nous, on voit le bout du tunnel maintenant, hein.
La date de réouverture qui enclenchera ce plan dépendra de deux indicateurs, du nombre de cas de contamination par jour et du nombre de personnes vaccinées.
Donc on est d'accord, ça reste une hypothèse, Armelle.
Oui, 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 c'est une réunion de travail.
Merci beaucoup, Armelle Lévy, du service économie de RTL. Pour les cinémas et théâtres, pas de date non plus. Hein. Roselyne Bachelot l'a redit ce matin sur RTL. La ministre de la Culture est par ailleurs revenue sur la cérémonie des Césars. Vendredi, elle dit avoir été frappée par le côté meeting politique. Écoutez-la, vous entendrez ensuite la réponse de Corinne Massiero, qui s'est présenté, on le rappelle, entièrement nu sur scène.
Et je me pose une seule question qui a d'ailleurs été posée à ce micro, en creux par Gérard Jugnot, dès le lendemain matin de la cérémonie. Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français.
Est-ce que ça a servi ? Moi, je reçois des messages du Brésil, des États-Unis, de Corée du Sud, de partout qui parlent de ça. Alors, peut-être que juste montrer l'état de ruine d'un corps d'une femme de plus de 50 ans, actrice de cinéma, qui symbolise l'état de ruine de notre profession. Faire ce genre d'action, il y a un moment donné, c'est parce que les paroles, c'est bien beau, mais à un moment, il faut agir.
La réponse de la comédienne Corinne Massiero à Roselyne Bachelot. Elle était au micro RTL de Franck Hanson.
On marque une pause dans un instant. Il y a du nouveau dans l'enquête et de nouvelles accusations qui visent Patrick Poivre d'Arvor. C'est à suivre.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, suite du journal d'Amandine Bégaud, et le parquet de Nanterre annonce avoir reçu de nouveaux témoignages dans l'enquête qui vise Patrick Poivre d'Arvor.
Les témoignages de deux femmes, elles évoquent des faits de viol, Alice Moreno.
Oui, deux femmes qui ont été entendues par la brigade de répression de la délinquance aux personnes et qui dénoncent des faits de viol, mais à ce stade, aucune nouvelle plainte ne vise l'ex-star du JT de 20h, pas depuis celle déposée par Florence Porcel. Les nouveaux témoignages révélés par nos confrères du Monde émanent pour la plupart de femmes journalistes. Beaucoup étaient toutes jeunes, débutaient dans le métier quand elles ont croisé la route de Patrick Poivre d'Arvor. Certaines dénoncent clairement des rapports non consentis. L'une d'entre elles fait un récit très clair d'une pénétration forcée. Une autre relate des appels téléphoniques insistants au point de devoir arracher le fil du téléphone. Une troisième se souvient quant à elle de questions déplacées. Vous êtes mariée, vous êtes fidèle, aurait ainsi demandé PPDA à une très jeune consoeur en présence de plusieurs plusieurs chefs. Patrick Poivre d'Arvor dément toujours formellement ces accusations et prépare plusieurs plaintes pour dénonciation calomnieuse.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. On passe au foot avec deux infos à retenir, Thomas.
Ah oui, d'abord, il y a le retour de Zlatan. Zlatan qui revient en équipe de Suède, hein, Zlatan Ibrahimovic. Après 4 ans et demi d'absence, la star qui a 39 ans a décidé à 3 mois de l'Euro de sortir de sa retraite internationale. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Euro.
Neymar, lui, en revanche, est toujours indisponible. C'est l'autre info foot du soir. Le joueur du PSG ne jouera pas demain les 8e de finale de la Coupe de France face à Lille.
Et puis, il y a quand même la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec un Français commandant de bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et oui, c'est une première. Thomas Pesquet a été désigné aujourd'hui. Il s'envolera le 22 avril prochain à bord de la capsule Crew 2 de SpaceX avec 3 autres astronautes. C'est une capsule, Thomas, qui a déjà servi. Et ça, ça n'est pas anodin. Écoutez.
Ça, c'est un grand débat qui fait rage au sein des astronautes. On discute de ça, on va dire, autour d'un café. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit si ça n'a jamais volé et que c'est neuf, c'est plus sûr. Il y a l'autre école qui dit en même temps, si ça a volé une fois et que ça a bien marché, c'est que quelque part, il n'y a pas de gros défauts dans le système, tu vois, et que du coup, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien la deuxième fois. Moi, ça tend, ça n'a pas trop m'empêcher de dormir. Je suis plutôt de la deuxième école. Je me dis si ça a marché la première fois, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas la deuxième. Mais ce serait mentir que dire que quand on s'installe sur une fusée, on sifflote des chansons et puis qu'on comprend ça à autre chose. Non, c'est un moment quand même un peu spécial. On sait qu'on risque sa vie et puis on sait qu'on a quand même des choses à faire pour que ça se passe bien.
Mmh. Et oui, c'est possible.
On l'imaginait pas si flottant en même temps dans sa fusée. Qui se rassure, Thomas Pesquet.
Il était au micro RTL de Sophie Jousselin.
Merci et à tout à l'heure, Amandine. Dans un instant, Jean Lassalle est l'invité d'RTL Soir, ancien et peut-être futur candidat à la présidentielle.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est député Libertés et Territoires des Pyrénées-Atlantiques. Jean Lassalle est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean Lassalle.
Bonsoir, cher Thomas Soto, et merci pour votre invitation.
Et bien, ma première question est très simple. Jean Lassalle, êtes-vous candidat à la présidentielle de l'an prochain ?
Oui, je suis candidat à la présidentielle de l'an prochain.
Et pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette décision ?
C'est une décision à laquelle je pense depuis longtemps, que je mûris, qui ne décroche pas de mon esprit. Et puis, je me suis rendu compte cet hiver que je n'avais jamais reçu autant de courriers avec les vœux ou de messages, mais même de lettres écrites. Vous savez qu'on écrit plus guère aujourd'hui. En me disant, Jean Lassalle, il faut que vous vous présentiez, il faut que vous disiez autre chose que ce qu'on en entend.
Alors qu'est-ce que vous avez à dire ? Qu'est-ce que vous avez à raconter dans cette campagne présidentielle qui va s'ouvrir ?
D'abord, c'est à dire et une attitude à porter. Nous sommes dans un univers et dans un contexte angoissé, stressé. Nous avons peur, nous sommes tous perclus de divisions. On voit bien maintenant qu'elles apparaissent même dans les familles. On le savait, mais maintenant elles sont apparentes. Elles sont à tous les niveaux. Et notre pays n'est jamais aussi grand. Comment je devrais dire ? Aussi lui-même, aussi génial que lorsqu'il est rassemblé. Donc je veux apporter... cette espèce de joie, de bonheur de vivre. Mince, on vit qu'une fois, peut-être deux, peut-être trois, je n'en sais rien. Mais au moins, vivons heureux. Et à partir du moment où vous mettez du bonheur dans le débat, vous ouvrez le cerveau. Et à ce moment-là, on peut retrouver notre génie.
Donc Jean Lassalle, candidat de la joie, c'est ça ce sera ça les affiches, candidat des bisous ?
Non, parce que les bisous, c'est autre chose. Je pense qu'on peut incarner... un sentiment de joie et d'un optimisme et d'une vision de faire ensemble. Sans que je vous demande sans arrêt, vous pensez pourquoi vous êtes ici, vous êtes là. Non, nous sommes ensemble, nous traversons un moment très difficile de notre histoire. Il n'est pas venu d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il se prépare. J'ai commis plusieurs ouvrages tout au long de ma carrière, qui a déjà été assez longue. J'ai eu la chance d'expérimenter, de créer même ma propre entreprise avec une quinzaine de salariés, dont 7 ou 8 ingénieurs. Je sais que je peux faire, mais je n'ai jamais aussi bien réussi que lorsque je l'ai fait dans un contexte, comment je devrais dire, de de bonheur partagé.
Donc vous dites qu'il faut changer l'état d'esprit pour pouvoir ensuite réformer la France et qu'il faut mettre les Français dans une autre disposition d'esprit.
Absolument, ouais. C'est la première chose.
Politiquement, il y a une image qui reste de vous sur ces dernières années, c'est en novembre 2018, vous êtes à l'Assemblée dans l'hémicycle et vous portez un gilet jaune. Est-ce que Jean Lassalle ambitionne d'être le candidat des gilets jaunes ?
Oui, mais pas que. J'ai mis le gilet jaune parce que la France est un pays révolutionnaire, dans l'âme. C'est la dernière inspiration révolutionnaire que nous ayons connue. Moi, je pensais que nous allions tous, les députés, autant que nous sommes, nous précipiter sur ces ronds-points. Parce que pour s'accaparer un rond-point, il faut quand même être génial. Il n'y a rien de plus inhumain qu'un rond-point. Et y faire des baraques, puis ensuite faire des manifs les dimanches, et je les ai suivis partout. Et puis ensuite, quand j'ai vu que nous ne les accompagnions pas, mais qu'en plus, nous leur tapions dessus, je parle nous, les politiques, à boulet rouge, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Jean Lassalle, vous étiez déjà candidat en 2017, vous aviez obtenu 1,21% des voix, soit 435 000 votes en votre faveur au premier tour. Qu'est-ce qui fera, selon vous, que cette fois-ci, les Français se diront, tiens, et si c'était lui ?
Oui, cette question, effectivement, il est très difficile d'y répondre. Parce que moi, j'ai des convictions très, très solides, vous me direz, bon, tout le monde. Mais moi, je les ai mises en application depuis mon plus jeune âge. Et je n'en ai pas varié. Je me suis exposé lorsque je ne pouvais pas accepter des changements dont je savais où ils nous menaient. J'ai chanté lorsque la suppression des services publics m'apparaissait une faute majeure.
Il y a qu'à voir l'état de leur campagne.
Oui, dans l'hémicycle, oui. J'ai jeûné lorsqu'on m'a arraché une entreprise à l'époque où on enfermait 400 000 en France.
Vous avez fait une grève de la faim à l'époque.
Exactement. J'ai marché lorsqu'il y avait une ambiance à couper au couteau à l'Assemblée nationale et où j'entendais partout « Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que ça va aller mieux pour l'agriculture ?» C'était le début du quinquennat de M. Hollande. Enfin, la moitié du quinquennat. Et j'ai voulu poser un acte, comment je devrais dire, de résistance. Parce que c'est aussi la résistance à un système. Nous avions un modèle démocratique qui a été certainement un des plus performants dans l'histoire des hommes. Peut-être mieux qu'Athènes, qui ne durera pas longtemps.
Oui.
Mais nous nous sommes laissés prendre piège, une fois de plus, du système systématique qui nous s'est emparé de nous.
Jean Lassalle, vous incarnez parfois une forme de folklore, et il vous arrive d'ailleurs d'en jouer, hein, soyons honnêtes. Votre candidature, c'est une candidature sérieuse pour peser ou c'est une candidature fantaisiste ?
Écoutez, si... compte tenu de ce que j'ai eu la chance de vivre tout au long de ma vie, de venant d'où je viens, après avoir été berger, et que mon frère ait pris la suite, dans le sillage de mon père, qui est l'homme que j'ai le plus admiré au monde, j'arrive à mon âge pour dire « je vais aller faire une campagne pour rigoler ». Mais il y a des gens qui sont infiniment plus qualifiés que moi. Que je fasse rire de temps en temps, mais tant mieux, puisque je veux que ce soit joyeux, puisque je veux que ce soit un paradigme nouveau.
Mais vous dites derrière, il y a du fond, il y a un vrai projet politique et il y aura un vrai programme politique.
Ah oui, il y aura un vrai programme politique avec un début et puis une continuation, on ne va pas tout changer du jour au lendemain.
Est-ce que vous aurez les 500 parrainages, vous l'aviez eu la fois dernière, est-ce que vous êtes confiant? Il faut 500 signatures pour être candidat à la présidentielle.
Voilà, ça c'est comme vous me disiez tout à l'heure, est-ce que vous allez, qu'est-ce qui va changer que vous allez être élu. Il faut aussi un petit geste de la Providence, vous savez. Il faut que les planètes s'alignent, comme on dit.
Ouais.
Et je les ai eues la dernière fois et j'ai même terminé parmi les premiers sur près de 80 départements de France. Pourquoi voulez-vous que j'ai regressé alors que je reçois 10 fois plus de courriers que je n'en recevais ou de messages à l'époque? Il est toujours plein, mon téléphone tiers, je l'ai confié pour ne pas qu'il fasse du bruit. Et de partout. Donc, vous savez, à propos du rire, je vais quand même dire une chose. Socrate, il y a quand même quelques temps, il est de bon ton aujourd'hui de citer l'Antiquité, ou presque, avait écrit « Celui qui est capable de faire rire peut aussi faire pleurer. Mais l'inverse n'est pas souvent vrai.
Il faut aussi de l'argent pour une campagne, vous le savez. En 2017, ça a été difficile. Votre banque, vous avez enlevé votre carte bancaire, votre chéquier. Vous aviez même dit que c'est votre belle-mère qui payait vos courses. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Excusez-moi si j'ai l'air de me présenter comme un autre. Mais est-ce que, pour Nelson Mandela, le jeu valait la chandelle de rester plus de 30 ans en tôle ? Est-ce qu'il n'avait pas mieux à faire que ça ?
Vous inscrivez dans la continuité de Nelson Mandela ?
Nelson Mandela, De Gaulle. J'admire beaucoup De Gaulle. Je veux actualiser De Gaulle en 2022. C'est-à-dire que tout a changé, bien entendu. Mais il y a quand même une présence.
Une incarnation ?
Il y a une incarnation.
Est-ce que Emmanuel Macron l'a, cette incarnation ? Comment vous le jugez ? Comment vous jugez sa gestion de la crise sanitaire aujourd'hui ?
Oh, là, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. Comme je l'ai écrit dans mon dernier livre, Aurore au crépuscule, nous sommes un colosse au pied d'argile. À partir du moment où nous avions abandonné depuis si longtemps la recherche fondamentale et appliquée, où nous avons oublié de travailler ensemble, où nous nous sommes laissés accaparer, sans préparer quoi que ce soit de l'avenir, y compris pour nos enfants, il ne fallait pas être grand clair. J'avais cité la pandémie, j'avais choisi finalement une panne électrique généralisée parce que je savais qu'on pouvait la faire. Un petit commando cyberpirate peut l'organiser pour dire à quel point le monde se retrouverait totalement sans rien s'il n'y avait plus d'électricité. Et je pense que ça reste un petit peu vrai. Et moi, je veux que tout le monde, que chacun, redevienne une part des citoyens qui vont reconstituer le peuple souverain, parce que nous sommes les seuls à l'avoir déclaré, dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Deux dernières questions, Jean Castex. Est-ce que vous êtes vacciné ?
Non, parce que je m'y suis rendu deux fois, et au bureau de l'Assemblée nationale, pour ce qui est assez normal pour un député. Et on a estimé que j'étais trop jeune.
Vous avez 65 ans.
Oui.
Oui. Mais vous vous ferez vacciner, vous n'avez pas de doute là-dessus ?
Écoutez, j'ai eu tous les vaccins à une époque où on ne me demandait pas mon avis. D'ailleurs, je m'échappais parce que j'avais très peur des piqûres. Maintenant, elles me font plutôt plaisir. Mais c'est pour dire que je suis capable de souffrir, vous voyez ? Mais oui, je serai vacciné. Il faut juste attendre de savoir quand même si ce premier vaccin fait plus de bien que de mal.
Dernière question. Vous êtes donc candidat à la présidentielle. Vous nous l'annoncez ce soir, Jean Lassalle. En cas de second tour, Le Pen-Macron l'année prochaine, vous voterez pour qui ?
Pour moi. Je serai en finale. Il va y avoir un effet de surprise. Vous le dites, je vous l'ai entendu vous dire, à vous-même, Monsieur Soto. Mais tout le monde le dit. Jamais en France, une finale annoncée n'a été réalisée.
Donc il y aura
il
pas
va y avoir
affiche,
donc
là.
Un élément. Mais il en manquera un ou l'autre. Et qui vous dit que Macron, que je ne critique pas, mais il peut très bien tomber sur le Sénéca, là, sur ce fameux vaccin. On peut lui trouver un truc et en quelques jours, il peut te balayer. Qui dit que Marine va rester à ce niveau-là ? Non, je pense que c'est plutôt une personnalité, ça peut être une femme, ça peut très bien être moi, qui sorte, qui est un véritable enthousiasme pour changer profondément l'État qu'il devienne au service de ce grand peuple.
Merci Jean Lassalle, candidat donc à la présidentielle 2022. Votre dernier livre, vous l'évoquiez, c'est Aurore ou Crépuscule, résistons, aux éditions du Cherche Midi. Merci d'être venu nous voir ce soir.
Mais j'ai été très heureux aussi, et c'est un moment qui m'engage beaucoup. Merci
à vous. À suivre l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous démarrez par une bonne nouvelle, Philippe.
Oui, parce que demain c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Et je voudrais m'adresser à l'un d'eux, le petit Gabriel, le Kids United du gouvernement, Gabriel Attal. C'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah bon ?
32 ans.
C'est vrai ?
Il aura l'âge pour se faire vacciner dans 30 ans. Voilà, bien fait pour lui. En 2050, AstraZeneca aura peut-être un vaccin qui marche ou qui ne fait pas mourir. Voilà, c'est bien.
On verra tout ça. On vous retrouve juste après le rappel des titres d'Amandine Bégaud. À tout de suite.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une ce soir, l'hypothèse d'un reconfinement de l'Île-de-France en discussion à l'Élysée, à la veille d'un nouveau Conseil de défense. Emmanuel Macron multiplie les consultations, conseils scientifiques, réanimateurs. Une certitude ce soir, les chiffres continuent de se dégrader. Le taux d'incidence dans la région passe à presque 419. 419 pour 100 000 habitants. On était hier à 404. Dans le même temps, l'opération transfert de patients patine. C'est une info RTL. Les deux TGV sanitaires prévus cette semaine sont reportés, faute de patients. L'actualité, ce sont aussi ces autotests bientôt disponibles. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert, des tests que chacun pourra faire seul chez lui, résultat en 20 ou 30 minutes. Et puis, sur le front de la vaccination, l'Agence européenne du médicament rendra jeudi son avis concernant la suspension du vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, Sadir Estric estime déjà qu'il y a sans doute plus de bénéfices que de risques.
Merci Amandine. La météo pour demain, Peggy. Bon, ça va s'améliorer un chouïa par l'ouest.
Oui, parce qu'on va retrouver des éclaircies sur la Bretagne, la Normandie, le Poitou le matin, jusqu'à la façade atlantique l'après-midi. Beau également encore près de la Méditerranée avec beaucoup de vent. Ailleurs, un ciel souvent nuageux, des averses sur l'est, de pluie ou de neige à basse altitude, voire en plaine sur le nord-est. Et le même type de temps sur les Pyrénées, tout ça avec des températures quasi stationnaires, des maximales comprises entre 7 et 18 degrés.
Merci Peggy. Philippe Cavrivière, l'œil de Philippe, tous les mardis, tous les jeudis. Rebonsoir. Vous avez déjà oublié qu'on s'est parlé avant l'été?
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
On commence bien sûr par la suspension d'AstraZeneca après l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Italie. C'est donc au tour de la France de suspendre ce vaccin.
Oui, il est suspendu pour 24, 48, 72 heures. Enfin, ce n'est pas une suspension, c'est une garde à vue, en fait. Puis, je vous préviens, AstraZeneca, il est comme Sarkozy, PPD ou Bernard Laroche. Il est innocent, AstraZeneca. Et attention, hein, on précise qu'on a suspendu des vaccins qu'on n'a pas reçus.
Oui.
C'est comme si je suspendais ma relation avec Scarlett Johansson. Hein, ou si le PSG suspendait Cristiano Ronaldo.
Oui.
Ou si RTL suspendait mon 13e mois.
Ah, vous n'êtes pas reçu non plus? Vous n'avez pas de 13e mois, Philippe ?
Ben non, vous avez compris le principe, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas suspendre un truc qu'on n'a pas. Alors bien sûr, on a une pensée pour tous les petits pistonnés déjà vaccinés avec du AstraZeneca qui nous ont nargué il y a 15 jours. « Oh, ben moi, je suis déjà vacciné, je n'ai pas de toubib. Ben, bien fait pour ta gueule, tu fais moins le malin maintenant. » Alors qu'est-ce qu'on leur dit ? Ben, on leur dit au revoir ou bonne chance, on ne sait pas. Plus sérieusement, si vous avez été vacciné, il suffit de vous dévacciner. Ah. C'est le même principe que pour une piqûre de méduse. Il suffit de vous faire uriner sur la piqûre par un ami. Ça se fait beaucoup en ce moment. Regardez notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Tout le cinéma français lui a fait pipi dessus pendant 2h40 vendredi soir. Elle n'en est pas morte.
C'est vrai, elle était là ce matin. Alors, on a entendu parler de ce pompier dans les Bouches-du-Rhône qui a fait 2 arrêts cardiaques, Philippe. Mais il est important de préciser, professeur Cavrivière, qu'il n'y a pas de lien avéré avec ce vaccin.
C'est vrai, mais reconnaissez que sur l'échelle des effets secondaires, l'arrêt cardiaque... Je crois que c'est au-dessus du ballonnement ou de l'urticaire. C'est spectaculaire, on va dire. Déjà, précision qu'il va bien, il s'en est sorti, bah, il est pompier. Il a quand même des notions de secourisme. Il peut se mettre en PLS tout seul. S'il meurt, c'est qu'il est incompétent, ce monsieur.
C'est une façon de voir les choses. Philippe, plus que jamais, un reconfinement semble imminent en Ile-de-France, car le taux d'occupation des lits de réa vient d'atteindre ce soir les 103% en Ile-de-France. 103%.
103%, ça veut dire qu'il y a une chambre où ils sont trois dans un lit. Bah, déjà, j'espère que c'est des king size. Pour le lit, Peggy, pas les préservatifs. Ils ont sûrement 95 ans, les pauvres.
Il y a donc plus de lits de réa disponibles et de nombreux patients d'Ile-de-France qui sont transférés en région. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'objectif.
Vous vous rendez compte que même dans le coma, les Parisiens fuient la capitale. C'est vous dire si on en a marre. Bah, c'est le petit avantage d'attraper une forme grave du Covid en région parisienne. Vous êtes immédiatement transféré en avion privé. En fait, vous avez la vie d'un gagnant de l'euro-million. En quelques heures, vous passez d'une vie lambda pour voler d'un coup dans votre avion privé, allongé avec le personnel aux petits soins. Ça doit être sympa, l'ambiance à bord. Madame, monsieur, mon nom est Jean-Pascal Flélite. Je suis votre commandant de bord. L'ensemble de l'équipage et moi-même avons le plaisir de vous accueillir sur Air Covid. À bord de ce Boeing dont le nom vient du bruit qu'il fait quand il s'écrase.
Oh.
Boeing, Boeing, voilà. Un petit peu d'humour quand on est dans le coma ne fait pas de mal. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont de... Ah ben non, vous les avez déjà, pardon. Merci d'avoir choisi Air Covid, nous vous souhaitons un bon vol. La petite lumière rouge au bout de l'allée centrale vous indique les sanitaires. Si vous voyez une petite lumière blanche, faites demi-tour car c'est très mauvais signe. PNC et PCR en porte, décollage immédiat. Oh, on y était. Ouais. On était dedans. Hein.
C'est vrai qu'ils parlent comme ça, les coordonnées.
C'est vrai, c'est bizarre.
Ils articulent pas. Comme ça. Dis, pas
c'est très bizarre. Ils ont une formation pour parler comme ça, je pense. Alors, en tout cas, on sent l'arrogance du Parisien qui déboule en province, en avion ou en hélico, et qui pique son lit de réa à un brave autochtone. Déjà que les provinciaux détestent les Parisiens quand ils leur prennent leur place de parking l'été. Alors, si maintenant ils prennent des lits de réa, ça va être la guerre.
Bon, alors vous venez de nous parler des malades transférés en avion. Certains sont transférés en train, Philippe.
Oui, les pauvres. C'est moins de l'amour. Alors, je ne sais pas. Ça doit être en fonction de la mutuelle. Ils ne doivent pas avoir les points. J'imagine le pauvre papy sur le quai de la gare en détresse respiratoire dans son brancard et qui entend... Le train Covid à destination de Bordeaux partira avec un retard d'environ 3h45.
Oh bordel, je vais claquer à cause de ces feignasses de cheminots.
Alors, autre conséquence, vous êtes très complet ce soir, hein, oui. Cet afflux de malades de nombreuses opérations jugées non essentielles sont purement et simplement déprogrammées.
Alors, ce sont des opérations considérées comme reportables, comme des opérations de la hanche, de l'épaule. Tant pis. Il y a des personnes qui avaient rendez-vous le 20 mars au CHU de Saint-Raphaël pour un rallongement pénien. Une opération attendue depuis des années. Ben, c'est pas grave. Il va reporter, le pauvre malade. Ouais. Priorité au vieux qui étouffe. Ouais. Ben, il fera son opération fin octobre. Voilà. Après l'été, quand ça servira plus à rien d'avoir une grosse bille. Voilà. Excusez-moi, j'ai pris un peu ce malade trop à cœur.
Rappelez-moi, vous êtes de Saint-Raphaël. Hein.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. On a l'impression que le cas de ce malade donc, vous touche tout particulièrement. Philippe, cela dit, pour être encore une fois complet, vous vouliez revenir sur la cérémonie des Césars et sur le coup d'éclat de Corinne Maziero.
Oui, alors moi j'ai été choqué qu'on se moque du physique de Corinne Maziero. Je ne ferai aucune remarque physique. Je ne mettrai pas de note à Corinne. MeToo est passé par là. Et j'ai grandi. Cela dit... C'est quand même la première fois que je vois un âne avec une culotte de cheval.
Alors, non.
Thomas me disait hors antenne.
On ne s'est pas parlé hors antenne.
On est passé de peau d'âne à peau d'orange. Et c'est vous, une fois de plus, Thomas, qui avez eu le mot juste, la formule pour résumer la mise à nu du capitaine Marlowe. Vous m'avez envoyé un SMS que je conserve vendredi soir en live. Vous m'avez dit, tu vois mon filou, comme quoi, un striptease, quand c'est bâclé. Ouais.
Madame, monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Voie A, départ imminent du TGV de Philippe Cave-Rivière à destination de Pôle emploi. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ.
Bon, ben, je vais c'est aller. La voix de la SNCF, c'est la vraie,
c'est la voix
ça.
De Simone Hérault. Voilà, merci Dominique Bruno, l'ingénieur du son, et Simone Hérault, adorable, qui a fait le petit message.
Ah, c'est génial, je suis tellement content que ce TGV vous emmène chez Pôle emploi. Bon, c'est dit, avec le préavis, vous serez encore là jeudi.
Ben, hein oui, j'espère.
Allez,
bien.
Avec plaisir, et demain, ce sera Valérie Trier-Véler.
Tout à fait, je serai à l'écoute.
Tout à fait, Fayot. Merci beaucoup, Philippe. Dans un instant, c'est un ex-policier qui va nous rejoindre, Christophe Corel. Plus de 20 ans de service, il publie demain chez De Noël un livre sans concession, mais aussi sans complexe, sur la police nationale, et ça s'appelle L'envers du décor.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
Il s'appelle Christophe Corel, il a travaillé pendant plus de 20 ans dans la police. Aujourd'hui, il travaille pour le ministère de la Justice et il publie Police Nationale, l'envers du décor. Le livre sortira demain aux éditions de Noël. Bonsoir et bienvenue à vous, Christophe Corel.
Merci, bonsoir.
L'envers du décor, l'arrière-cuisine de la police, ça ressemble à quoi? Comment elle va, la police?
Elle va mal. En tout cas, il y a des difficultés qui sont au jour. On en parle depuis maintenant plusieurs mois. On a un Beauvau de la sécurité qui est en cours. Donc c'est forcément qu'il y a des difficultés. Le ministre de l'Intérieur lui-même les a rappelés en commission des lois. C'est problématique.
Il a parlé des 7 péchés capitaux de la police.
C'est ça. C'est les 7 péchés capitaux. On peut parler de la formation, on peut parler du recrutement. Donc j'essaie d'aborder vraiment tous ces thèmes-là au cours de cet ouvrage.
Mais c'est quoi le problème avec la police aujourd'hui? Cette défiance qui existe dans une partie de la population vis-à-vis de sa police. Vous l'expliquez comment?
C'est complexe en fait. On peut difficilement répondre en une phrase comme ça en disant quel est le problème. On a un enchaînement de petites choses en fait qui font qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. Je crois que le principal problème, on paye aujourd'hui finalement les décisions politiques qui ont été prises il y a 20 ans en fait. Mmh. Et il est là le problème, c'est qu'on a eu une baisse d'effectifs de plus de 6000 policiers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors ils ont été rattrapés depuis.
Oui, ça a été rattrapé, puis il y en a d'autres depuis. Donc c'est un problème qui n'est plus un problème d'actualité là.
Si, parce qu'on a juste aujourd'hui recouvré les effectifs tels qu'ils étaient en 2007. On a à peu près 149 000 policiers. Sauf que du coup, on a été obligé en même temps, dans le même temps, de faire des recrutements massifs. avec une baisse du niveau recrutement en même temps. On a raccourci la durée de formation. Et puis, on a eu, il ne faut pas non plus s'en cacher, on a eu des périodes d'attentats, on a eu des manifestations, donc on a eu plein de sujets qui font qu'on a surutilisé les policiers.
Je vais vous lire justement. Comment en 5 ans seulement est-on passé des applaudissements admiratifs à la défiance extrême face à la police? Vous posez la question et vous répondez dans votre livre, la réponse est très simple. En 2015, les policiers avaient pour mission la protection des populations face au terrorisme. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils protègent surtout le pouvoir en gérant la crise sociale que ni les politiques ni les syndicats ne parviennent à endiguer.
C'est ça. Ben, c'est qu'on a, à un moment donné, on a un dialogue social qui est absent depuis plusieurs années. On a un problème de ce dialogue social. Mmh. Et la responsabilité est tout à fait partagée entre les politiques et les syndicalistes. Et finalement, après, ça se joue dans la rue, où on a des manifestations qui sont de plus en plus décidées. Et forcément, au bout d'un moment, les tensions montent dans les manifestations. Et puis on assiste après aux scènes auxquelles on a assisté pendant un an et demi avec les manifestations.
Quand il y a des incidents dans la rue, quand il y a des flics qui dérapent, quand certains flics, et j'insiste sur ce certains, certains policiers ne se comportent pas bien, c'est pas la faute des syndicats, c'est pas la faute des politiques. Il y a un problème de comportement de certains policiers en France aujourd'hui ou
alors,
pas?
Alors, je vais paraphraser, si vous me le permettez, M. Pierre Joxe, qui m'a fait l'honneur de faire la préface du livre, qui disait que la première responsabilité lorsque des policiers dérapent, c'est la responsabilité des personnes qui ont mis ces policiers dans les situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc il est là le problème, c'est la formation. On revient toujours un petit peu à la même chose en fait, c'est la formation le nerf de la guerre.
Donc c'est la formation, c'est la hiérarchie, c'est le préfet quand c'est le préfet d'une ville ou d'une région, c'est ça ?
Il y a un petit... Alors, je ne sais pas si le préfet a quelque chose à voir là-dedans, mais en fait c'est une accumulation de choses qui font qu'effectivement à un moment donné, après il y a des erreurs individuelles, attention, il ne faut pas non plus tout exempter et dire c'est la faute de l'institution ou la faute du politique. Il y a quand même aussi une part de responsabilité. Mais effectivement, il faut aussi, avant de s'interroger sur la responsabilité personnelle, il faut aussi s'interroger sur la responsabilité du système.
Oui, vous avez insisté sur les problèmes de formation des policiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui portent l'uniforme qui ne devraient pas le porter ?
Alors, je ne serais pas si catégorique que ça. En tout cas, on a une formation aujourd'hui qui est trop courte. Qui est trop courte et je pense qu'il n'est pas assez complète. Mmh. On a, d'ailleurs, l'année dernière, on a changé le système de formation de la police. Avant, on avait un an d'école de police. Qu'on faisait, dans lequel on mettait des quelques mois de stage, et on a regroupé maintenant tous ces mois de stage pour les mettre à la fin, et puis on a 8 mois de formation en structure scolaire école de police. Et c'est pas suffisant, d'ailleurs les formateurs c'est ce qu'ils disent, c'est ce que je fais aussi paraître dans le livre, c'est de faire intervenir toutes ces personnes-là en fait qui travaillent dans la police. Et les formateurs le disent, c'est trop court en fait, et potentiellement c'est un risque. Je veux pas dire que toutes les personnes qui sont recrutées aujourd'hui sont pas bonnes, c'est pas vrai, c'est pas ça le truc. C'est le fait de dire, on s'expose à des risques en ne formant pas suffisamment correctement les policiers.
Vous revenez aussi sur l'épisode des Gilets jaunes dans votre bouquin. Inutile de demander qui de l'œuf ou de la poule, du manifestant ou du policier a engagé les hostilités. Il est un fait, la violence des uns fait monter celle des autres et on dénombre des blessés de part et d'autre. Est-ce que vous diriez que la crise des Gilets jaunes a été un tournant et si oui, en quoi ? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ?
Ben c'est l'organisation de la manifestation qui a changé. Jusqu'à maintenant, on avait toujours des manifestations encadrées, notamment par des syndicats, donc avec des cortèges bien définis, des personnes à qui s'adresser aussi, des responsables finalement, notamment syndicaux. Donc quand il y avait des débordements, on savait éventuellement à qui s'adresser. Là aujourd'hui, on était dans une structure totalement horizontale avec les Gilets jaunes, et il n'y avait personne, il n'y avait pas d'interlocuteur en face. Ouais. Et notamment au début, on l'a vu au début de cette crise, des interlocuteurs qui refusaient même potentiellement tout contact avec le pouvoir politique. Donc on est vraiment dans une situation de blocage en fait. Mmh.
Vous écrivez aussi qu'au-delà du seul ministre, c'est l'ensemble de la classe politique qui est responsable de la situation où se trouve la police aujourd'hui, mais aussi la justice. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
Alors surtout la classe politique, parce que c'est toutes les décisions politiques qui ont été prises depuis 20 ans finalement en fait. Hein. C'est comme ça qu'on en arrive
c'est
là.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Vous évoquez la mort de George Floyd aux États-Unis, ce noir américain mort étouffé, ce qui a donné lieu à des manifestations et au mouvement mondial Black Lives Matter, les vies des noirs comptent. Vous évoquez aussi celle d'Adama Traoré chez nous. Où est-ce que vous placez le curseur du racisme et peut-être plus largement de la discrimination dans la police française ?
Ce sont déjà deux notions différentes.
Oui. On mélange peut-être trop facilement.
C'est ça, le débat, je pense, est souvent mal posé. Et puis, c'est pas moi qui le dis, ce sont des sociologues qui le disent, avec qui on peut en discuter, en fait. Il y a deux questions. Est-ce qu'il y a du racisme et puis, est-ce qu'il peut y avoir des mesures discriminatoires? Ce sont deux choses totalement différentes. Du racisme, le président de la République l'a dit lui-même, en fait, dans son interview chez Brut. Effectivement, il y a des cas de racisme, comme il y en a dans toute la société. Et après, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que dans la discrimination, il ne faut pas que non plus tous les policiers se sentent visés en disant forcément tout le monde discrimine, déjà c'est pas le cas forcément, mais c'est de se dire juste le métier à un moment donné les situations dans lesquelles on est placé, le fait d'aller toujours dans les mêmes endroits, notamment dans des secteurs difficiles, ça peut amener potentiellement, si on ne fait pas attention, si l'administration ne forme pas correctement dans le temps, ça peut amener justement à ce qu'on ait des conduites effectivement discriminatoires.
Mmh. Vous l'avez envoyé au ministre de l'Intérieur, votre livre ?
Écoutez, je me tiens à sa disposition pour le lui remettre sans difficulté. Ouais.
Vous avez quitté l'uniforme, si je puis dire, vous n'êtes plus policier. Vous étiez un homme heureux ou un homme malheureux ou un homme qui se sentait mal considéré quand vous étiez policier ?
Non, je ne peux pas dire que j'étais malheureux, c'est pas vrai, ce serait mentir. Non, j'étais bien, je faisais un métier, j'estime que j'avais de la chance de le faire dans un service, dans un très beau service avec des personnes
en
compétentes.
En police judiciaire.
Oui, c'est ça. Et donc, j'aime ce métier de la police judiciaire. Je suis parti à la fois pour des raisons personnelles, familiales, mais aussi parce que j'avais envie de voir autre chose. Et donc, découvrir ce monde de la justice qui me permet personnellement m'enrichit aussi, finalement, de voir une autre facette de l'enquête. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Mais non, j'aimais beaucoup ce métier-là et je l'aime toujours, d'ailleurs.
Elle vous manque, la police, aujourd'hui ?
Alors, d'une certaine manière, oui, mais j'ai retrouvé aussi une vie de famille, donc il y a une compensation différente.
De quoi auraient besoin les policiers de France aujourd'hui, au-delà des moyens et de tout ça de
Mais quoi... c'est important déjà, c'est important ces moyens. Je pense qu'ils ont besoin de savoir où ils vont, d'avoir une classe politique qui est capable de leur dire qu'est-ce qu'on veut faire des policiers, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans 10 ans, à quoi sert la police finalement, qu'est-ce qu'on attend de la police.
Donc un cap.
Un cap, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a plus depuis 30 ans. Parce qu'on a des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, qui ont été des ministres de l'urgence. Et depuis, malheureusement, je fais toujours cette référence, c'est pas parce qu'il est dans le livre, mais Pierre Joxe était quand même un modèle de ministre de l'Intérieur, parce que justement, il a donné un cap à la police à cette époque-là. Et depuis lors, on a pu ça.
Merci Christophe Corel d'être venu dans RTL Soir. Votre livre Police Nationale, l'envers du décor, préfacé donc par Pierre Joxe, sortira demain chez De Noël. Merci à vous d'être venu.
Merci à vous.
Dans un instant, on va parler culture de l'actu avec Julien Molcou. Les États-Unis discutent avec la Corée du Sud. Et figurez-vous que ça ne plaît pas du tout à la sœur de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Eh bien, les sœurs, c'est un sujet très vaste pour Julien et pour la culture de l'actu.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Julia Molcou, donc pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Les États-Unis et la Corée du Sud procèdent en ce moment à des manœuvres militaires conjointes qui a valu à l'administration Biden un petit avertissement de la part de Kim Yo-jong. C'est la sœur du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Et c'est donc aux sœurs, mais cette fois dans la culture, que vous consacrez votre papier.
Oui, et on ne va pas parler de fratrie, mais de... Tiens, vous connaissez le mot pour désigner l'ensemble d'une famille composée de sœurs ?
Une famille...
C'est une sororie. Voilà. Donc, on va pas parler de fratrie.
J'étais à sororité, mais je n'avais pas.
Vous n'étiez pas loin. Mais voilà, de sororie. Et donc, on va commencer avec trois filles de pasteurs élevées dans les landes du Yorkshire. Ce sont les sœurs Brontë. Ça, c'est un extrait de la bande originale du film qu'André Téchiné leur a consacré. Alors... Trois sœurs, trois chefs-d'œuvre. Allez hop, 1847, allez hop. Charlotte. Charlotte publie Jane Eyre. Pour la première fois, à travers ce personnage féminin, eh bien, on entend les femmes penser. L'année suivante, c'est Anne qui publie La Recluse, premier livre à dénoncer les violences conjugales dans la haute société victorienne. Et puis enfin vient Émilie qui écrit Les Hauts du Hurlevent et qui expose alors aux yeux de tous les tabous de l'époque.
Donc elles étaient, j'imagine, perçues comme excentriques et féministes.
Ce qu'elles étaient. Elles étaient exactement ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'elles ont eu un destin tragique. Toutes les trois sont mortes avant 40 ans. Mais leurs trois noms restent liés à jamais par l'amour et la littérature, un peu comme celles qui viennent maintenant, mais qui, elles, sont liées par l'amour et le cinéma.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Bon alors déjà, force est de constater que la littérature et le cinéma comptent moins d'histoires de sœurs que de frères et que bien souvent les sœurs sont reléguées à des rôles très stéréotypés.
Bon, d'un côté celle qui fait un mariage de raison, de l'autre celle qui vit un amour passionnel ou qui préfère finir vieille fille.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Et donc du coup, en 67, quand Jacques Demy arrive avec les Demoiselles de Rochefort, eh ben on est hyper content parce que là il nous présente deux sœurs à la ville comme à la scène, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, radieuses, déterminées et complices, qui certes attendent l'amour comme bien d'autres, mais un peu mieux. N'empêche qu'elles étaient nettement plus aimables que les sœurs fâchées, qui étaient Isabelle Huppert et Catherine Fraud, à l'écran seulement cette fois-ci les sœurs.
Ah, oh, ça fait plaisir d'être à Paris. Oh, je suis contente d'être là.
Tu trouves pas que là, on voit qu'on est sœurs.
Les sœurs fâchées, c'est ça
ouais. Les sœurs fâchées, ouais.
Ouais, là, c'était plutôt réplique cinglante et crépage de chignon. Hein.
C'est ça.
Et des sœurs qui chantent ensemble, on en connaît aussi.
Mais plein.
Mais oui, madame.
Et parmi elles, déjà en France, on trouve les sœurs Étienne, que vous avez oubliées. Pourtant, vous étiez tout jeune quand elles ont fait carrière.
Vous plaisantez, je les ai fait commencer, moi. Les
c'est ça. Elles
s'appellent Louise et Odette.
Exactement. Ouais. Vedette éclair des années d'après-guerre. Votre naissance.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser.
Bon, on écoute très bien jusqu'au bout, mais j'ai d'autres trucs.
Je t'embrasse.
Non.
Bon, allez, continue,
Thomas,
d'accord.
Comment parler de groupe de sœurs sans parler aussi des Andrews Sisters?
Peggy?
Les Andrews Sisters,
ah oui.
Chanteuses de jazz américaines.
Ah non.
Mais
non.
Si, vous allez reconnaître. Elles ont connu 40 ans de carrière et elles ont vendu plus de 75 millions de disques, dont beaucoup de ça. Drinking rum and Coca-Cola, go down to Cubana.
Ah, c'est pas mal aussi, les sœurs Andrews.
Enfin, Thomas, les années 70 et 80, on le sait, sont vos années préférées. Et ça tombe bien, elles ont vu naître sur scène un quatuor de folie. June, Bonnie, Anita et Ruth Pointer.
Les donc Pointer les Sisters.
Bien sûr, à qui l'on doit des titres comme...
Alors, les avait,
I'm
hein,
so excited.
Non, vous l'avez celle-là? Non,
si, je chante si je veux. Ok, mais moi, mon préf des Pointer Sisters, c'est Jump for My Love. Il est 18h56, c'est l'heure de la boum sur RTL. Mais Thomas, si vous êtes ok, la grande sœur que je suis embrasse ses trois petits frères. Parce que dans la vie, sororie ou fratrie, il n'y a pas beaucoup plus fort.
Bon, bah moi j'embrasse mon frère aussi, hein, mon grand frère.
Voilà, allez-y, voilà, comme vous voulez, mais vous n'êtes pas, hein. Pas une sœur, moi je suis une sœur.
Ouais. Non, virez-la avec leur Coca-Cola, leur rhum. Remettez-moi les sœurs Étienne, s'il vous plaît, Damien. Non, c'est quand même.
C'est sur commande en fait.
Ouais, s'il vous plaît. Ah. Merci.
Plus j'aime t'embrasser.
Chantez vachement bien que les sœurs Étienne.
Allez, je vous le laisse, Peggy. À demain.
C'est insensé ce que j'aime t'embrasser.
Merci.